C'est la deuxième heure du numéro 1155 de Sweet Home Chicago. Voici le troisième volet de l'interview de Jean-Pierre Vignola. Jean-Pierre Vignola, bonjour.
Bonjour Marc. Il y en a plein d'autres, on parlait de piano, Ray Bryant. Ray Bryant, pour la palier de piano, dans le blues, il y a, je crois, un duo de Oscar Peterson, duo de piano Oscar Peterson, Count Basie, qui joue le blues, c'est sympathique.
Oscar Peterson, Count Basie, Play the Blues, ouais, effectivement. Ouais. Ça fait partie de la playlist que tu m'as suggéré, ouais, Jean-Pierre. On va y revenir, bien sûr. Le blues français, puisqu'on évoquait tout à l'heure la Nouvelle-Orléans, qui, depuis Louis XV, est toujours un petit peu française, hein, dans notre cœur, en tout cas.
Le français est accueilli comme...
Si la Louisiane s'appelle comme ça, c'est à cause ou grâce à Louis XV, j'en sais rien. À l'époque, c'était une colonie. Bon, on a vendu ça pour une bouchée de pain, tant pis. Mais la France a toujours bonne presse. Enfin, moi, qui suis allé une fois à la Nouvelle-Orléans, j'étais reçu pas comme un roi, mais comme quelqu'un de bienvenu. Hein, et ce fameux séjour s'est ponctué, par exemple, par un concert au Preservation Hall, puis une soirée dans la rue.
Concert, ouais. Je suis désolé de te dire ça, mais le concert au Preservation Hall, c'est le concert pour touristes.
Oui, parce que
ça
tout le monde vient pour
ça.
Ça
fait partie du circuit.
Et tu sais qu'il y a même une étiquette au-dessus du batteur, dans le fond, où tu veux un morceau, tu payes 2 dollars. Par contre, si tu veux qu'il joue When the Sun, c'est 5 dollars.
Ah oui, parce qu'ils en ont marre.
C'est clair. Mais je crois, alors ce voyage-là remonte à 1995 me concernant, et je peux te dire que la moyenne d'âge des musiciens était environ 80 ans, et ça jouait, mais du feu de Dieu, quoi. Alors, pour touristes, certes, mais on avait de la musique d'Ixieland tout à fait authentique. Et voilà, c'est tout le moins ce qu'on a ressenti dans nos petites oreilles de touristes amateurs de musique. Et les musiciens français, eux, ils vont se nourrir régulièrement, par exemple, à la Nouvelle-Orléans. Et moi, je pense à une autre de tes activités, à une autre de tes casquettes, celle de producteur. Tu t'intéresses à des artistes français, dont notamment Olivier Gauthier, mais il y en a quelques autres, des gens comme ça que tu aides. Lui, il vient de région de Marseille.
Olivier Gauthier, je l'avais connu, il avait gagné le tremplin de blues sur scène. Je l'ai découvert comme ça.
Ouais.
Et sa façon de parler, de vivre sa musique, ça m'interloquait. Et je me suis dit, oh, ce gars-là, je voudrais bien lui passer un coup de main.
Bah, c'est vrai, très séduisant, avec sa vaisselle board sur les genoux. Il avait même fait une version, rappelle-toi, de Billie Jean par Michael Jackson.
Oui, hein, c'est ça.
C'était assez inattendu.
Il a voulu sortir un album, donc il a sorti l'album chez nous, il a sorti un second album, et puis je l'ai programmé un jour, je l'ai programmé entre autres, bon, à droite à gauche, mais je l'ai programmé à Vienne, en ouverture de Santana, et ça l'avait un peu, bon, il avait le track, hein, évidemment.
Ah, je peux te dire qu'il s'en souvient encore, hein.
Il avait le track, et je l'avais programmé, je lui avais dit la vérité, le pourquoi du comment. Parce que l'entourage de Santana avait la fâcheuse habitude, au dernier moment, de dire il n'y aura pas de première partie. Parce que le changement de plateau, ça va déranger, ça va pas. Au dernier moment, des fois une demi-heure avant le début. Donc, en prévoyance, je m'étais dit tiens, je vais mettre Olivier. Comme ça, ils ne pourront pas me faire l'excuse du changement de plateau.
On va préciser, Olivier joue sur un tabouret de piano tout seul devant la scène, à ras des gens.
Une chaise et un ampli, donc changement de plateau, 30 secondes.
Exactement.
Donc, ils ne pourront pas me... Et donc, Olivier, comme ça, a joué devant, en première partie de Santana. Évidemment, c'était blindé. Olivier fait sa prestation, bon, angoissé et tout. Il termine, il range sa guitare, il va vendre ses CD et tout, et on ne le voit plus. Et Santana, à la fin de son concert, sort et il cherchait Olivier partout pour l'inviter à venir faire le bob. Voilà. Et il n'a pas pu, puisque Olivier n'était pas là. Donc.
Alors ça, c'est... Ouais, ouais, c'est... Et il l'a su après, évidemment.
Il l'a su après, oui.
J'imagine, oui, beaucoup de regrets, évidemment. It's a change everything have, cause nothing goes in the wrong direction. You say change everything you have, cause nothing goes in the right direction. Up from your garden tower, you had to better learn, know how to run. You lie in your speeches, sitting books that you don't understand. Speeches, sealing books that you don't understand. How can you burn a thousand words and set them to ashes on my land? I remember the day you changed my promenade on a nightmare. I remember the day you changed my promenade. No matter the strongest of my thought is like the deepest. No matter the strongest of my thought is like the deepest of my scales. And I hate differences you made to parted people from the other. Hey. I hate
thought we were supposed to be like brother, mother, father, and sisters. You try to touch my people by hunting place where they celebrate.
Hey.
You're trying to touch my people by hunting places where they celebrate. How would I never stop to sing the song and facing the field that you
change everything you have, cause nothing goes in a good
vibration. Change everything you have, cause nothing goes in a good vibration. Down in the hell you should have learned how to run, to learn how to run.
Les musiciens français, parmi les musiciens qui ont pour la première fois enregistré un blues, bon, traditionnellement, on a l'habitude de parler du blues du dentiste de Henri Salvador, tu confirmes ?
C'est marrant, c'est Boris Vian.
Ouais.
Boris Vian, et il y a une version de Paul Persson qui est,
avec
qui est sympathique.
Ouais.
Qui est sympathique comme ça. Bon, c'est pas un blues qui va marquer des esprits, mais c'était un blues humoristique. Voilà. Et qui, au départ, qui était de Henri Salvador et de Boris Vian.
On va écouter ça.
Bien mal aux dents, oh là là.
Sors de chez moi et je pense en pleurant. J'ai un homme durant. Oh.
Les dentistes sont éteints et qui pourra m'arranger ça? De gens, et pendant que j'attends, oh là là,
sur un brancard, à un mec tout blanc, porté par deux masters. Oh,
je lève déjà pour foutre le camp. L'infirmier crie au suivant. Je me trouve debout devant le dentiste. Je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en pisse. Il a des tenins. Avant même que j'ai pu faire ouf, m'a déjà fait sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont tournés dans leur tombe. Oh là là.
Voilà qui plombe. Plus belle dent, celle que j'ai par devant. Oh, oh,
me crie la gueule au chalumeau et me refile un grand verre d'eau. Me dit faut payer votre dette. Je venais d'être payé la veille.
Ce salaud fauche toute mon oseille et me refile 50 balais.
Et il ajoute en rigolant.
dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Et moi, je gueule ce soir. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma poupée, ça ratiche? Non, ça fout mal, ça fout mal. Ouais, non, mais arrêtez tout, arrêtez tout. Arrêtez tout. Éveille-toi.
Alors, en matière de blues français, tu as pu écouter tout plein de choses, et j'imagine que tu as toi aussi assisté à la naissance de talents comme Paul Person, qu'on vient d'entendre, comme Benoît Blueboy, comme Patrick Verbeek, le regretté Patrick Verbeek, qui nous a quittés l'année dernière, Bill de Rem, enfin, il y en a quelques-uns, Jean-Jacques Milteau,
Jean-Jacques Milteau, forcément.
Oui. Chris Lancry.
Il y avait Mountain Men.
Alors, les Mountain Men, c'est plus récent, on est dans les années 2004-2005.
Ouais, et le hasard, c'est toujours pareil, c'est blues sur scène et tout, et ils étaient de Grenoble, et à côté d'Uriage. Et leur rêve, c'était de venir à Vienne, donc je les ai programmés comme ça. Hein. Et ça a été un moment pour eux, ils doivent s'en souvenir encore.
J'imagine. Alors les Mountain Men, effectivement, ils sont séparés depuis, mais ils ne sont pas forcément fâchés. On les a encore vus en photo jouer ensemble il n'y a pas tellement longtemps. Mr. Matt, qui fait la carrière que l'on connaît, avec notamment, justement, en ce moment, ces passages dans The Voice sur TF1, qui n'est pas forcément à l'abri du besoin maintenant, mais qui a bien fait son chemin et qui a enregistré deux albums chez Universal. Et puis Barefoot Piano, qui lui continue en artisan à promouvoir sa musique, sa propre musique. Maintenant, il joue plus que de l'harmonica, il joue aussi de la guitare. Et voilà, ça continue chacun de leur côté. Mountain Men, on connaît tous les deux. Hein. C'est vraiment un duo magique.
Ah, c'est magique, quelque chose. Hein. Ah, on peut l'écouter quand même.
On peut écouter Mountain Men, évidemment.
Together, you can hang your head and cry. One day you will find that there is nothing more certain than the passing time. When did the party end? I never even felt it near. There goes another friend. Before too long, another year. You wanna try to live forever? I'm gonna try to stay with you. And if the wind of change will catch us up, tick tock, bad clock. I want to slow it down. Why can't you let me be? I want to live right now. May the force of youth be right by your side where you roam. One day we will find there is no mystery. Old is good, bait and young. When will the party end? I don't feel it getting near. Here comes another friend. Before too long, another year. You wanna try to live forever? I'm gonna try to stay with you. And if the wind of change will catch us up, tick tock, bad clock. I want to slow it down. Why can't you let me be? I want to live right now. Oh,
to try to stay with you. And if the wind of change should catch us up, tick tock, bad clock, I want to slow it down. Why can't you let me be? I want to live right now.
Mountain Man, c'était un excellent souvenir. Mountain Man, voilà, j'espère de tout cœur qu'un jour ils vont soit se réunir à nouveau, soit
l'envie de rejoindre
produire
ensemble.
Quelques concerts oui, ensemble. Oui, voilà, ça serait quand même sympa. Moi, j'ai souvenir d'un concert où ils ont ouvert pour un certain Tommy Castro. C'était en 2010 à Jazz sous les Pommiers à Coutances. Jazz sous les Pommiers, il y avait 1500 personnes dans la salle Mercelli. Tout le monde était assis et il n'était pas question de bouger parce que c'était un concert assis. Je peux dire qu'au deuxième morceau, Matt leur a demandé de se lever. Ils se sont tous levés. Ils ont passé la fin du concert debout. Hein. Ça, c'est sa façon de faire, sa marque de fabrique. Le fait de pouvoir faire lever les foules comme ça, le fait d'obtenir des ovations, c'est pas réservé à tous les artistes. Ouais. Ça, tu l'as vu chez les musiciens américains, tu l'as vu dans des festivals, tu l'as vu dans tous les lieux. Ouais.
Oui.
Ce qu'on appelle un triomphe, quoi.
Mais le problème, c'est avec les vedettes américaines, ils sont déjà prêts. Ils ont Chuck Berry, les gens étaient déjà debout. Il n'avait pas besoin de jouer, qu'ils étaient déjà
il
debout.
Il n'avait pas besoin de jouer. Et il jouait trois quarts d'heure et salut. Hein. C'était ça,
non.
Le truc.
Chuck Berry, c'est 55 minutes.
Et, voilà.
Et je l'ai vu jouer une seule fois plus et de faire un billet. C'est la seule fois en plusieurs tournées, c'est parce qu'il ouvrait pour Rod Stewart. Mmh. On était en Suisse, je ne sais plus en quelle année, et Rod Stewart passait après lui sur la même scène, mais la scène était tellement immense qu'avec le côté jardin jouait et qu'on l'installait côté court. Et là, Chuck m'a étonné, c'était un bon concert. Ouais. J'en ai rarement vu de bon.
Country boy named Johnny B. Goode.
Jean-Pierre Vignola, il y a beaucoup de musiciens qui ont joué avec Chuck Berry parce que lui, il changeait de musicien comme on change de chemise ou parfois même.
Ah non, il changeait pas de musicien. Enfin, la plupart du temps, il venait avec son bassiste et fallait lui fournir son clavier et son batteur.
Et puis il y a un guitariste aussi parfois. Enfin, il y a une anecdote avec Bruce Springsteen, par exemple.
Plus, sans répétition.
Ouais, hein. Parce que c'est ça, Bruce Springsteen montant sur scène avec Chuck Berry en 78, se tourne vers Chuck Berry au moment où il commençait à jouer, parce qu'il n'avait pas réussi à le voir avant, vu qu'il n'était pas descendu de sa limousine au pied de la scène, et il lui dit, on fait quoi? Et Chuck Berry se retourne vers Bruce Springsteen en lui disant, bah, dites Chuck Berry. Et c'est Julien Brunotto qui a pu m'en parler.
Ah ben,
aussi,
Julien Brunotto, voilà. À Paris, il a joué, oui.
Bien sûr.
Il y en a quelques-uns. Puis alors, j'ai oublié les noms. Il y en a un strasbourgeois là, qui connaît et qui avait l'habitude de jouer avec Chuck. Mais c'est, alors, on avait botté en touche, nous, parce qu'il avait donc toujours son bassiste. Mais on avait pris Eddie Penn à la batterie et Lafayette Lick au piano.
Oui, donc des vrais bluesmen.
Et là, oui, et là, ça... La machine lui poussait au cul.
Ça a matché.
Il ouais, fallait que ça aille sûr.
Comme si ça avait été de Willie Dixon. Quoi.
Voilà, ouais, c'était... Mais ce n'est pas humainement, ce n'est pas un type qui m'a laissé de grands souvenirs.
Mais un garçon très respecté, par exemple, par un certain Keith Richards, qui, comme un gamin, était capable de prendre des cours.
Ah oui, mais ça, c'est bon, c'est comme ça. Hein,
auprès de Chuck Berry. Ouais. Chuck Berry, un type d'une grande autorité, finalement, sans être péjoratif, voilà, c'est un mec qui en a posé. Quoi. Tu ne pouvais pas négocier avec lui. Quoi.
Non, et puis là. Il est devenu vedette, il a fait quelques tubes, donc ouais. Chuck Berry, bon. Mais il y en a d'autres qui ont fait des tubes qui sont...
Ah bah James Brown, tiens, par exemple.
Bah James Brown, oui.
Ouais. Alors lui aussi, c'était un mec qu'on qualifiait peut-être parfois d'irascible ou de très très compliqué à gérer.
Les quelques rapports que j'ai eus avec lui, il n'a pas été désagréable, il
D'accord.
a été très correct. Très correct, c'était... Il fait son show, il fait bien son boulot, il assure bien, il fait son truc.
Jean-Pierre Vignola, Jean-Pierre, si on parle des musiciens et si on parle des guitaristes et des pianistes, on peut aussi évoquer les chanteurs. On a évoqué les grands vocalistes que sont B.B. King et Big Voice Odom. Moi, j'aime bien les mettre ensemble, ces gens-là, parce que Big Voice n'a pas fait la carrière qu'il méritait et pourtant, il avait vraiment l'organe qu'il fallait. Hein, pour, c'était un blues shooter, enfin, un type qui pouvait faire du Big Joe Turner, qui pouvait faire du...
Big Joe Turner, mais il y en a plein de chanteurs, c'est pareil. Jimmy Rushing.
Bobby Blue Bland.
Marrant comme tout, Bobby Blue Band, j'ai bossé, j'ai bien aimé ce type-là.
Est-ce que c'était au moment où il collaborait avec B.B. King ?
Non, ils ont fait des albums, ça je sais, mais on l'avait fait venir au Méridien. Bobby Blue, et ça alors j'ai oublié la marque, mais ils pensaient que ça allait faire bien, ils s'étaient achetés tous des survêtements de je ne sais plus quelle marque, le truc. Et ils jouaient en survêtements, et ça, la direction n'avait pas voulu, bon bref, ils étaient tous étonnés, mais un type charmant, Bobby Blue.
Mais est-ce que Bobby Blue, voilà, aux États-Unis c'était une immense vedette, est-ce qu'il a vraiment été très très connu de ce côté-ci de l'Atlantique ?
Non.
Il n'a pas vendu énormément d'albums. Hein.
Non, c'est pas... Mais il y a des artistes qui sont difficile à... Parfois, comme Etta James. Etta James, on n'a pas fait beaucoup de... pas beaucoup de concerts en France et très peu en Europe. Il y a des noms comme ça, Bobby Bland, le jazz, c'est Woody Herman, par exemple. En France, il n'avait pas un gros succès. Buddy Rich non plus. C'est comme ça. Mais il y a des chanteurs, bon, Jimmy Witherspoon, il y en a Billie Holiday, c'est chanter le blues, non ?
Alors, Billie Holiday, tu viens de citer le nom d'une femme. Il n'y en a pas beaucoup des filles hein, dans cette sélection. Les noms des artistes dont on parle sont surtout des hommes.
Des chanteuses, il y en a plein. Marva Wright, Carrie Smith, Coco Taylor, Betty Lavette.
Chez Mika Copeland.
Oui, et puis d'autres qui savent chanter le blues. Et là, Fitzgerald savait chanter le blues. Et chantait même avec les crickets. Hein.
Sarah Vaughan.
Carmen McRae, toute Betty Carter, toutes les chanteuses. Il y en a quelques-unes quand même qui sortaient aussi pour le blues, vraiment. Carrie Smith. Et pareil, méconnue, c'était une grande chanteuse. Bon.
Et pourtant, alors j'ai envie de dire, il y a beaucoup de... Parmi les musiciens de blues, il y a très très peu de femmes. Et pourtant, le tout premier blues jamais enregistré, c'était en 1920. Et c'était une femme, c'était Mamie Smith.
Oui.
Elle a montré la voix. Mais en fait, c'est resté une musique vachement macho quand même, Jean-Pierre, non ?
Oui, complètement. Oui.
Mais qu'est-ce qui explique ça ?
Ça, je peux pas le dire. Ça, en tout cas, il y a Roda Scott avec Lady All-Star qui fait un orchestre féminin qui cartonne en ce moment.
Et qui continue sa carrière. Ah, oui, il a passé les 80 ans, je crois.
83, là, Roda. Et ça joue, elle joue encore terrible. C'est musical, c'est fantastique, ça. C'est...
Si on revient sur la scène française et si on parle des chanteuses, j'évoquais tout à l'heure Tia Goodbell du groupe Muddy Gurdy. Ça, il va falloir que tu écoutes, Jean-Pierre. On peut citer Nina Attal, on peut citer Gaëlle Busvet. Il y en a quelques-unes hein, qui assure bien.
Mais en ce moment, que ça soit artiste féminine ou masculin, il y a énormément d'artistes superbes. Et c'est malheureux parce qu'il y a de moins en moins d'endroits pour jouer.
La qualité augmente, le nombre d'endroits pour les voir diminue.
Ouais, ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais moi, je suis assez fier de ça. Je vais me faire des ennemis, mais on n'a pas besoin d'Américains tous les jours. On a ce qu'il faut à la maison. Hein.
Bah, on s'en est rendu compte depuis 2 ans maintenant. Ouais. Ça y est, les rares concerts, les rares festivals qu'on a pu voir s'organiser se sont faits sans les Américains. Alors, ils sont en train de revenir et c'est normal et c'est très bien. Et on les accueille à bras ouverts. Mais tu l'as dit, les musiciens français sont tout à fait capables. Tiens, la nuit du blues à Caen, un exemple, hein, Fred Chapelier, le groupe d'Arnaud Fradin et puis les Steelers.
Arnaud Fradin, c'est terrible. Moi, voilà. Je connais Arnaud depuis longtemps. Bon, quand il a fait My Tall Mix, c'est terrible. Bon, ouais. Tout ça, et puis là, avec ses routes. Mais le problème, bon, les Américains, c'est la musique américaine, négro-américaine, c'est un peu leur musique, ceux qui l'ont créé, bon. Mais il y a aussi le côté, ils viennent faire leur argent chez nous.
Hein. Oui, c'est bien normal. C'est aussi un business, hein, à partir de
l'Europe. En Europe, surtout la France, parce que bon, je connais un peu les tarifs à droite, à gauche. Ils prennent plus cher en France qu'en Espagne ou qu'en Italie. Hein.
D'accord. Et qu'en Allemagne aussi, ou pas forcément ?
Pas forcément, mais en France, on est les number one, on est les dindons de la farce. Oui.
On est les bons payeurs.
Et le Japon. Ouais. Hein, ils font leur pognon là. Parce qu'aux États-Unis, ils sont.
Bah, on a coutume de dire qu'aux États-Unis.
Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des types à 1 500-2 000 $ la soirée qui vont jouer pour 100 balles.
Oui, si, on peut citer des noms. Il y en a qui l'ont révélé dans des interviews. Hein. Un type, tiens, je joue du lundi au dimanche tous les soirs pour 200 $ et ça me fait à peu près pareil que si je jouais une seule soirée à Paris. Je parlais de Magic Slim, qui lui était maçon, qui a fait la carrière qu'on connaît. Il a été découvert.
Magic Slim, nous, on l'a eu. On a fait pas mal d'enregistrements. On l'a eu X fois en tournée. Hein,
Et Magic Slim, c'était un vrai de vrai. Mais effectivement, il jouait tous les jours. Et comme la plupart d'entre eux, pour 3 fois rien, quoi. Enfin, quand je dis 200 $, c'était les bonnes soirées. Ça pouvait être pour le quart de ça. Et effectivement, ce nerf de la guerre, la France qui paye bien les musiciens américains et qui peut-être paye un petit peu moins bien les musiciens français, finalement. Parce qu'il y a cet engouement pour les Américains.
Oui. Non, puis il y a un système différent. Les musiciens, quand même, français, ont une couverture sociale qui... Hein, on a vu avec le confinement, là, avec les problèmes qu'il y a eu. Bref... aux États-Unis, on les avait au téléphone, quand est-ce qu'on revient, c'était la misère.
Il ne faut pas se plaindre ici.
C'était pas simple pour eux, ils retournaient laver les carreaux, distribuer les journaux pour pouvoir nourrir la famille. Alors qu'en France, il y a eu une aide différente, plus facile. Hein, mais ils viennent quand même perdre l'argent chez nous.
Bien sûr. Jean-Pierre Vignola qui continue à organiser des tournées, des concerts et qui va encore une fois, en 2022, présider à l'organisation de la soirée blues de Jazz à Vienne. Est-ce que tu peux nous révéler l'affiche de cette année, Jean-Pierre ?
Mais on va faire Kevin Dénard, un jeune Tarbais qui avait gagné un tremplin blues sur scène. Alors Kevin Dénard a des petits problèmes d'audition, il est à Paris et il fait un blues tout seul comme Olivier Gotti. Bref, c'est un personnage attachant et sincère. Mmh. Il y aura Little Mouse and the Hungry Cat qui ont gagné le dernier tremplin de blues sur scène, c'est une chose. Il y aura Manu Lanvin, Zach Harmon enfin, parce qu'on l'a annulé 2 fois de suite, donc c'est la 3e, j'espère que ça sera la bonne.
Très bonne idée.
Kingfish et puis Jamie Rogers.
Alors, Kingfish qui vient de remporter un award là.
Ou même deux, même, je crois.
Deux awards, carrément, pour cet album 662 chez Alligator Records, qui est en fait un peu le fer de lance de la nouvelle, de la jeune génération des bluesmen noirs américains. Enfin, moi, je suis très content de ça pour lui parce que, franchement, c'est un artiste valeureux.
Un artiste qui.
Ça fera une très très belle, affiche. As-tu idée de s'il y aura une collection, par exemple, Zach Harmon Kingfish?
On ne sait pas. On verra bien. C'est le hasard qui fait que c'est très long. C'est arrivé déjà, des quelques surprises comme ça, mais faut attendre le moment même.
Parmi tous ces artistes que tu as cités, si tu devais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu malheureusement, certains artistes ont fait les heures de gloire du blues et du jazz dans les années 50, 60, si tu devais faire ressusciter quelques-uns d'entre eux, et si tu devais aller à leur concert ce soir, tu choisirais qui, Jean-Pierre ?
Oh, il y en aura un paquet.
Alors on va se donner un petit joker à trois. Trois artistes.
Non,
c'est encore pas assez.
Non, bah Jimmy Rushing, Big Joe ouais. Turner, Professeur Longuerre.
Ah oui.
Nouvelle-Orléans, c'était terrible. Il y en a plein. C'est bah, Bibi, évidemment. Albert King, il y en a. C'est tous. Tous, en fin de compte.
Très bien. Et alors, tu disais il y a un instant que, en fait, la qualité, que ce soit en France et aux États-Unis, elle est toujours croissante. La qualité des musiciens est là. Malgré tout, bien, le nombre d'endroits pour les voir jouer diminue. Ça veut dire que l'amateur de blues de demain n'a aucun souci à se faire par rapport à la quantité d'artistes qui vont continuer à perpétuer cette musique-là. Est-ce que ça va être la même musique ? Est-ce que ça va être authentique ? Est-ce que ça va continuer à être aussi bien ?
Oui, authentique, oui. Ça a toujours évolué. Il y a toujours eu des tendances. Bon, quand on parle avec les puristes qui restent sur le jazz traditionnel, quand il y a eu le bebop, il y en a plein qui ont hurlé au scandale. Puis après, il y a eu le hard bop, il y a eu différentes choses, mais bon, tous ces musiciens ont fait leur chemin. Il y avait de la qualité, il y avait du... Ras Silver, par exemple, bon, ça a été un sacré musicien. Et puis les musiciens entre eux se respectent, peu importe le style. Ça, c'est ce que j'aime bien aux États-Unis. Miles Davis, je l'ai vu respecter un groupe de gospel de la Nouvelle-Orléans qui était à moitié amateur. Mais le fait qu'ils soient musiciens, artistes, ils se respectent tous, qu'on fasse la musique classique, du jazz, du blues. Il y a le respect de l'art qu'on n'a pas toujours en France.
C'est la question que j'allais te poser en corollaire à ça. C'est pas forcément le cas chez nous. Il y a aussi, malheureusement, la jalousie, l'envie, la convoitise. Enfin, le succès de l'un fait parfois le malheur de l'autre, alors que ça devrait au contraire le booster.
Oui.
Hein ?
Oui.
Le respect, voilà, c'est un peu la raison de vivre aussi de tous ces musiciens authentiques, tous ces gens qui ont colporté la bonne parole du blues depuis plus de 100 ans et qui continuent à le faire avec les nouvelles générations. Le fait que toutes ces générations s'interpénètrent et jouent les uns avec les autres. On a encore vu Franqueville-Saint-Pierre, un groupe avec les deux papas et les deux fistons. Moi, je trouve ça extraordinaire de jouer de la musique en famille. C'est une transmission directe. On n'a plus besoin de partition. On n'a besoin que de ses oreilles et de ses doigts. Enfin, voilà, tout passe par là.
Ah bah, y a un groupe, il y a un quartet qui existe avec les deux pères et les deux fils. C'est Michel Pastre qui est saxophoniste avec son fils César au piano, et puis Danny Doris, vibraphoniste, et son fils qui est à la batterie. Bon.
Danny Doris qui fait la programmation du caveau de la Huchette, si je ne m'abuse.
Il est propriétaire du caveau de la Huchette.
Il en est propriétaire, il fait également la programmation.
Oui, c'est ça, oui. Ouais,
un collègue à toi, en fait, c'est quelqu'un qui...
Et donc, il a quelques heures de vol. il y a... Ouais, donc, les deux pères, les deux fils jouent ensemble, c'est bien ce truc-là. Et puis, bon... Il y en a des choses. Puis il y a des trucs marrants, j'ai un souvenir. Les petits disent. Un guitariste sympathique, gaucher donc. Eh bien, quand on l'a eu en tournée, il nous a raconté plein d'anecdotes. Il était à la base aérienne d'Hébreu. Ouais. Les Américains étaient encore à Hébreu. Il avait fait son service militaire à Hébreu. Et il connaissait plein de musiciens français.
Je me souviens, je l'avais vu à Lisieux. C'était vers 96, un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'était à ce moment-là. Non, ou alors c'était à la toute première tournée en 82. Je ne sais pas de laquelle.
Ah non, mais les petits disent. Mais il était venu faire son service militaire bien avant.
Ouais. Alors, bien sûr, mais quand il est venu enregistrer, effectivement, je crois, vers 79-80.
Oui, c'est ça.
L'album Somebody Story My Christmas, mes souvenirs.
Il a fait pour Black and Blue et puis Isabelle.
Ouais. Et vers 95-96, il était venu au Lisieux Blues Festival, et à côté de Évreux, donc effectivement, il était en terrain conquis. Voilà.
C'était marrant. Je me souviens, il était avec, je crois qu'on avait fait une tournée avec Johnny Dollar.
Oui. Oui, d'accord. Ouais. Un petit mot sur les autres personnes qui ont pu présider aussi aux destinées de Black and Blue et puis qui ont aussi été à leur façon, à leur manière, des précurseurs dans la connaissance du blues en France. Tu as évoqué tout à l'heure Jean-Marie Monestier. On peut parler d'autres personnes comme ça qui t'ont entouré. Oui. Quels sont les
Jean-Pierre Tamasian.
Jean-Pierre Tamasian, voilà.
Monestier, c'est le fondateur. Il était disquaire à Bordeaux. Il avait un magasin de disques, la boîte à musique. Il avait fait un petit studio dans le fond de son magasin. Et voilà, passionné de jazz, évidemment. Ouais. Alors à l'époque, il était Hot Club de France, c'était l'association pour les amateurs de jazz classique qui marchait fort. Et puis, il s'est lancé là-dedans, faire des petites tournées, enregistrer, etc. Alors, il avait commencé par acheter des bandes pour rééditer en France. Et puis après, il s'est lancé, puis il a fait l'album. Il y a eu John Hooker, Luther Johnson, Mickey Baker. L'histoire est partie. Bon. Et c'est un type qui était un sincère véritable et qui... Bon, il a bouffé son magasin. Il l'a fermé, etc. Mais l'histoire Black and Blue a continué. Et après, il s'est associé avec Jean-Pierre Tamasian, qui, lui, était... il faisait partie de l'éducation nationale. Mais il était amateur de jazz et de blues.
C'est pas incompatible, je peux te
confirmer. Comme toi, oui. Donc, t'es bien placé pour le savoir. Et là, il a choisi. Donc, il est devenu... Il travaillait un peu, en plus, avec Monestier. Il faisait du booking, ils accompagnaient, bon, bref. Et puis, il a laissé tomber l'éducation nationale et il est à la retraite. Donc, Jean-Pierre... nous sommes trois retraités. Donc, Monestier est retraité à Bordeaux. Il est dans le coin de Bordeaux. Tamasian est dans le coin de Narbonne. Et je suis le seul con des trois retraités à être dans la région parisienne.
Mais plus pour longtemps.
Avec les clés du bureau. Comme ça, quand il y a une livraison ou quand il faut y aller, c'est moi qui suis de gourmet. Voilà.
Il y a d'autres noms qu'on peut citer parmi tous ces gens-là. Didier Tricard, par exemple.
Didier Tricard, alors lui, est arrivé chez nous en 76, je crois.
Ouais, voilà. C'est ça. Ah bah lui aussi, là, il avait raconté ses fameuses tournées avec des Chuck Berry, avec des gens comme Buddy Guy. Enfin, voilà. Et son fils Guillaume, qui continue dans le
Et bah, Guillaume, également... il est venu chez nous. Il est salarié de chez Jazmi Blue Concert, notre boîte et associé. Voilà.
Il y a un dernier nom que je voulais te soumettre aussi, parmi les gens qui ont pour la première fois accueilli des bluesmen en France, c'est Jacques Morgantini.
Oui.
Que tu as connu aussi ou...
J'ai bien connu Jacques, oui. Jacques et son épouse Marcel, qui avait fondé la marque MCM et qui est allée enregistrer à Chicago.
Et à qui on doit, par exemple, la découverte de Magic Slim ou de Jimmy Johnson, par exemple.
Oui, j'ai Monestier, je crois, qui avait connu Magic Slim avant. Bref, ça, c'est autre chose. C'est les histoires de... On ne va pas faire des histoires clochées pour... Mais Morgantini, qui avait été le vice-président du Club de France. Et qui avait une spécialité, blues.
J'ai l'impression que cette histoire du Club de France, ça a été aussi l'occasion pour certains de s'envoyer des pots de fleurs à la tête. Enfin, il y avait toujours...
Ah bah oui, il y a eu la scission avec Charles Delaunay.
Ouais.
Il y a eu la scission avec Charles Delaunay, donc alors les anecdotes, moi j'ai pas connu, où les premiers concerts de bebop, le big band de Dizzy qui venait fin des années 40 à Paris, les puristes coupaient les câbles de micro autour, enfin bref, c'était de la guerre de clochers, stupide, en fin de compte stupide, parce que bref, c'est... Ils ont contredit un certain jazz qui fait partie maintenant. Le bebop, c'est du jazz classique. Hein.
Bon, on est toujours le novateur de quelqu'un et classique d'un autre, ou en tout cas, on le deviendra, effectivement.
Mais tout ce qu'il faut, c'est que ça swing, qu'on tape du pied dans les mains et frapper dans les mains, c'est le principal.
Ça, c'est une très très bonne conclusion. C'est le genre de phrase que je voulais entendre dire, par exemple, pour toi, le jazz, le swing, le blues, enfin toutes ces musiques-là, ça se résume à quoi? C'est la danse? C'est l'expression corporelle, c'est l'expression de l'âme aussi.
Au départ, c'était de la danse.
Ouais,
c'était une musique de danse.
Et tu ne crois pas qu'il y a certains musiciens qui ont oublié ça et qui ont peut-être trop intellectualisé leur musique au détriment justement d'une certaine spontanéité?
Moi, ce qui m'ennuie, il y a des gens, des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le jazz ou quoi que ce soit. C'est quand on leur fait écouter ou quand ils écoutent par hasard une certaine musique qu'on a labellisée jazz, j'ai peur pour eux. Hein. Parce que s'ils se disent que si c'est ça le jazz, ils vont pas revenir. Et je ne citerai pas de nom.
On peut citer le nom quand même d'un artiste français maintenant disparu qui a plus que popularisé le jazz. Il en a fait sa marque de fabrique. Et puis, même s'il ne se prétendait pas forcément jazzman, il a fait toute une carrière avec cette musique-là derrière lui et au fond de lui, c'est Claude Nougaro.
Ah oui, mais c'est un amateur de jazz de première bourre.
Un amateur éclairé. Ouais. Hein.
Ah bah, il a fait ses adaptations des morceaux de Count Basie, hein, c'est quelque chose, il aimait le jazz. Il aimait profondément le jazz.
Comment est-ce qu'on explique, Jean-Pierre, que le grand public achète davantage de disques de blues que de jazz, même si ça reste très très faible, et connaisse davantage le jazz que le blues?
Je sais pas, je me pose pas la question. Bon, moi, j'achète les deux.
Ouais.
Et puis c'est musique, on va dire cousine, c'est la même chose pour moi. C'est les cinq doigts de la main.
Qu'est-ce qu'il faut pour que ces musiques-là perdurent? Est-ce qu'il faut qu'on continue à faire monter la qualité? Mais est-ce qu'il faut pas aussi, quelque part, continuer à éduquer le
monde public? Monter la qualité, il y a déjà de la qualité. Il faut continuer à la diffuser. Hein, la diffuser, bon, la radio c'est une chose, mais faire de plus en plus de toujours de la musique live, ce qui est important, et festival, enfin, et de la musique où on présente vraiment du jazz et du blues. Qu'on n'aille pas appeler, mettre des étiquettes avec d'autres musiques, aussi bonnes soient-elles, hein. Peu importe, mais faut appeler un chat un chat.
Il faut que le jazz et le blues puissent continuer à exister sans
complètement.
Dans leur spécificité, sans forcément aller vers trop de métissage. Alors, c'est ça ton message?
Ah non, pour le métissage, parce que c'est une musique...
Ça reste une musique vivante, finalement.
Vivante, et puis une musique de métissage. De toute façon, c'est ça, c'est une musique internationale. Hein.
Ouais.
Tu prends un bassiste polonais, un batteur péruvien, un saxophoniste américain, il parle pas la même langue et tout. On dit, on joue le blues, 1, 2, 3, 4, on y va.
C'est parti. Exactement, c'est une musique à langage universel, tu l'as dit.
Complètement. Et comme c'est la musique du 20e siècle.
Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes générations, aux musiciens qui démarrent, et puis aux mélomanes qui sont en train de se former aux musiques qu'on aime? Qu'est-ce qu'il faut leur dire quand nous, on sera plus là?
Qu'ils écoutent les grands-pères. Qu'ils écoutent la musique des grands-pères. Alors, ça, c'est... Et je m'en lasse toujours pas. Il y a des choses. Et ce qui est fantastique, c'est cette musique. Par exemple, bon, on prend n'importe quel titre. On parlait de Stormy Monday. Moi, je m'amusais à faire un montage et j'avais 20 versions différentes de Stormy Monday. Je me passais ça en boucle. Qu'est-ce qu'il y a comme différence?
Bah
qu'on voit la marque de fabrique de chacun, c'est terrible. Bon, c'est terrible. Bon, ça, c'est vraiment une belle musique.
They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Just as bad.
But Tuesday. is just as bad. They call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday is worse. And Thursday's also sad. Go out to play. The eagle flies on Friday. Saturday, I go out to play. Don't you know I'm just trying to find my feet?
Jean-Pierre Vignola, tu as consacré toute ta vie à écouter de la musique, à la programmer, à la produire, aider les musiciens à vivre de leur art. Est-ce que toi, tu es musicien, Jean-Pierre ?
J'ai pas la peine d'en parler. C'était une époque qui m'a pas laissé de grands souvenirs.
Ça veut dire que tu as fait un solo de triangle en 74 et ça t'a
pas réussi ? Non, c'est pas ça. J'ai appris à l'époque, j'allais à l'école municipale de musique, il fallait apprendre le solfège, se taper trois genres de solfège avant. Les dictées musicales, quand on faisait des erreurs, on me tapait sur le bout des doigts parce que ça, c'était une autre époque. Ouais. Donc j'ai essayé de faire un peu de trombone et de sous-bassophone et ça a été catastrophique. Bon, je travaillais pas, j'avais du mal à jouer juste, je jouais carrément faux de toute façon et c'était une catastrophe. Donc je suis passé de l'autre côté de la barrière et ça m'a donné beaucoup plus de plaisir que de...
Tu t'es senti plus utile de ce côté-là de la scène que de l'autre en fait, c'est ça l'idée?
Non, c'est toujours le hasard. J'aurais travaillé l'instrument sérieusement. Pourtant, j'ai eu quelques bons professeurs qui vont essayer de me... Curtis Fuller, des gens comme ça, mais c'était dramatique. Non, dramatique. Donc, faut être conscient de ce qu'on vaut, et puis vaut mieux arrêter, et puis point barre. Donc, ça m'a permis de continuer à écouter de la bonne musique et à vivre. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu vivre et faire vivre ma famille avec ma passion. Mmh. Et ça, c'est... Merci, je sais pas à qui je dois dire merci, à tous ces musiciens, à tous ces gens qui m'ont permis de faire ce métier-là.
Jean-Pierre Vignola, tu continues à t'occuper du festival de Mantes-la-Jolie, Blues sur scène. Tu en es le trésorier, je crois, de l'association.
Oui.
Quel est ton rôle, en dehors de tenir les cordons de la bourse bien fermes pour que ça continue? Quel est ton rôle? Tu fais de la programmation également?
Bon, je fais de la programmation. J'utilise un peu, bon, pour négocier avec les vieilles connaissances que j'ai depuis le temps. J'essaye et tout. Puis on fait un autre festival, EOL.
EOL
Factory, c'est autour des vents, des bois, puisqu'on a à Mantes des usines de lutherie. On a le buffet Crampon, Selmer et Loré.
Ouais.
Donc saxophone, clarinette, au bois. On fait un festival autour de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de style, hein, classique, musique du monde, jazz, blues. C'est autour du saxophone, de la clarinette, trompette, des cuivres, des vents.
Les cuivres et les bois.
Voilà.
Et donc, ce festival Blues sur scène, une des dernières fois qu'on s'est été croisés, c'était pendant le tremplin. Et je voulais savoir, à titre personnel, toi, est-ce que tu avais pensé des artistes du tremplin? Tu parlais tout à l'heure de Little Mouse and the Hungry Cats qui avait remporté la mise. Ces artistes qui se sont proposés au jury, qu'est-ce que tu as pensé de ce cru 2021?
C'était bien, c'était un bon cru. Ouais. C'était le duo, là, qui était...
Vaste Hôtel Horizon, c'est ça?
Ouais,
c'était... Vaste Hôtel Horizon.
C'était sympa comme tout.
Ils sont passés en premier, oui.
Non, c'était bien, sympa. Mmh. Parce que on a été...
Il y avait Orla aussi, hein. Il y avait deux duos en fait. Hein. Ouais, deux duos hommes-femmes.
Ça a été malheureux qu'on l'ait laissé tomber, ce tremplin. Bon, mis à part le confinement, les anciens responsables de l'association avaient décidé que ça coûtait trop cher et avaient supprimé le tremplin. Pour moi, c'était stupide. Bon,
Donc c'est bien d'être revenu à cette formule. Et pour 2022, ça aura lieu à nouveau. Enfin, moi, j'ai reçu un
premier il n'y a pas très longtemps. Ouais, et ça... donc le gagnant jouera à nouveau à Münster et à Vienne.
Très bien.
Eh ben voilà. Ça fait une belle carotte, non?
Bah, c'est clair. Ça. Pouvoir jouer devant autant de monde. Je voulais te remercier, Jean-Pierre, pour tout ça. Et puis, on ne sera pas sans se revoir et peut-être aussi sans reparler à la radio à nouveau.
Je reviendrai avec plaisir parce que j'ai encore plein de choses à raconter. J'imagine. La mémoire, ça revient en parlant là tous les deux.
C'est ça.
Il y a des choses qui me sont revenues
évidemment.
Que je ne raconte pas tout de suite parce qu'il y a des choses un peu égrillardes. Mais je reviendrai avec plaisir. Surtout, comme je t'ai dit, je vais devenir voisin.
Surtout qu'on va devenir voisin dans très peu de temps, dans très peu de semaines. Voilà, très bien. Merci Jean-Pierre.
Avec plaisir.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci à Jean-Pierre Vignola pour ses souvenirs et puis pour évoquer également la scène française. Ça a été possible aujourd'hui encore avec Olivier Gauthier, Tiki Olgado et Paul Persson ou Mountain Man. On a pu également écouter un peu de jazz avec Oscar Peterson et Count Basie, un peu de rock and roll avec Chuck Berry et Bruce Springsteen et puis ce titre Stormy Monday interprété par T-Bone Walker, puis Gary Moore, Freddie King, B.B. King, Bobby Bland, The Allman Brothers Band, Etta James et Eva Cassidy. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'interview fleuve de la 12e heure, ce sera avec Véronique Soria de Mama's Biscuit. Salut, bye bye.